Vous écoutez
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame?
Depuis Drive to Survive, la série sur Formule 1, Netflix ne s'arrête plus. La série sur le tennis vient de sortir, bientôt le rugby, bientôt le cyclisme. Une exposition exceptionnelle pour les sports, mais ça pose aussi des questions. Certains sportifs ne veulent pas participer à ce show qui scénarise leur sport pour plaire au plus grand nombre. En tout cas, il va falloir choisir votre camp. Dans le coin gauche, ils aiment les séries à l'américaine, les gentils, les méchants, les larmes, les rires et le sang. Ils trouvent que Netflix, c'est merveilleux pour le sport. La team merveilleux, Pascal Duprat, Renaud Longuèvre et Marc Madiot, ils sont trois. Dans le coin droit.
Il est payé par Netflix, Madiot.
Il sera une nouvelle fois seul contre tous. Il est le seul à avoir le temps de regarder Netflix et pourtant, il trouve que c'est dangereux pour le sport. La team dangereux, représentée par le seul et l'unique Christophe Cessieux. Juste avant d'entrer dans le vif du combat, j'ai besoin qu'Arnaud Souk monte sur le ring. Il est toujours là, Arnaud. Le sport qui devient des terrains de jeu préférés, effectivement, des réalisateurs de Netflix.
Oui, et la plateforme vient d'ailleurs d'officialiser le 24 février comme date de sortie pour la saison 5 de sa création originale sur la Formule 1 Drive to Survive, mais si la Formule 1 a déjà une belle place dans le catalogue Netflix, donc ne compte pas s'arrêter là, et vient d'ailleurs de sortir une série sur le tennis nommée Breakpoint, et dont l'équipe de tournage a accompagné des grands noms à travers le monde à l'occasion des 4 grands chelems: Félix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini, Ons Jabeur, Nick Kyrgios, Casper Ruud, Arina Zabalenka. Ils sont entre autres mis en scène. Autre sport, le golf et sa série Full Swing, disponible mi-février. Le Tour de France cycliste et la Coupe du Monde 2022 auront le droit également à leur show, tout comme le rugby avec le tournoi Destination, dont les épisodes seront eux diffusés en 2024. En présentant les coulisses des plus grands événements sportifs mondiaux à un niveau d'accès inédit, nous avons une occasion unique de partager les triomphes, les tribulations, les drames de ces moments emblématiques avec nos millions d'abonnés à travers le monde. Voilà ce que dit Brandon Rigg, l'un des responsables des documentaires chez Netflix.
Et pourtant, certains ne voient pas forcément ça d'un très bon œil, cette intrusion des caméras.
Oui, au point, par exemple, qu'on s'en souvient, le pilote néerlandais de Formule 1, Max Verstappen, avait refusé de participer à la saison 4 de Drive to Survive. En tant que pilote, je n'aime pas en faire partie. Ils ont inventé des rivalités qui n'existent pas vraiment. J'ai donc décidé de ne pas en faire partie. En substance, c'est le show must go on que critiquait Max Verstappen, lequel a finalement quand même décidé de participer à la saison 5 en émettant tout de même quelques conditions, notamment celle d'avoir un droit de regard sur ce qui le concerne dans la série. On peut aussi reprocher par exemple à Breakpoint de tirer sur la corde sensible à grand renfort de musique. Et puis pour ce qui est de la série sur le Tour de France, on va quand même se poser des questions. On s'attend à voir de potentielles rivalités exacerbées, peut-être même au sein des équipes. La Groupama FDJ par exemple envisageant d'amener pourquoi pas David Gaudu et Arnaud Démare sur la grande boucle. Le grimpeur et le sprinter ne s'apprécient guère et Netflix pourrait en profiter pour grossir le trait, à l'image de ce qu'elle avait d'ailleurs déjà fait avec la Movistar il y a quelques années. Il y avait une série sur la Movistar, ouais. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alejandro Valverde et Nairo Quintana étaient dans cette série et on avait franchement vu un portrait pas très uni, on va dire, de cette équipe espagnole avec un Nairo Quintana qui, malgré ses victoires, était complètement laissé de côté.
Alors merci beaucoup Arnaud, tu peux rester avec nous bien sûr. On va parler de tout ça et de Netflix dans le vélo, mais d'abord le tennis, puisqu'il y a une balle importante pour Tsitsipas face à Djokovic.
Balle de 7 pour Stefano Tsitsipas, 5-4, 30-40. On est dans l'échange avec Djokovic qui essaie de faire la différence. Pour l'instant, le grec résiste très bien. Tsitsipas, oh là là, il est pris. Superbe accélération de coup droit de Djokovic. 40-1, c'était une balle extrêmement importante. Il l'a merveilleusement sauvé. Donc 5-4, Tsitsipas, 40-1. C'est pas fini ce jeu encore.
La prochaine balle de 7, on vient te voir, bien évidemment. Mais on va entrer dans le vif du sujet sur Netflix. Arnaud parlait effectivement du vélo. Avant de t'entendre, Marc, puisque toi, tu as accueilli ces caméras de Netflix, je voulais donner quand même le sondage que l'on a mis sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Vous pouvez le faire évoluer, ce sondage et les résultats.
Ça,
la team merveilleux
jamais,
pour l'instant. Si, si, c'est très serré. 52% pensent que c'est merveilleux. 48% pensent que c'est dangereux. Donc ça va être ton rôle, Christophe. Alors, de faire gagner la team dangereux. Pourquoi pour toi c'est dangereux?
Alors, je suis très partagé parce que, comme beaucoup, j'ai adoré Drive to Survive, surtout la première saison. Je me suis régalé. J'ai hâte. Très hâte de voir ce que ça va donner sur ce qu'ils ont filmé pendant le Tour de France. Ils sont même venus nous filmer, Arnaud, dans le studio RMC.
Surtout toi, c'est toi la star de l'Intégral Tour.
Ils sont venus nous filmer, donc évidemment que c'est passionnant de regarder ça, de voir de l'intérieur ce qui se passe au sein d'une écurie ou d'une équipe, de découvrir les vraies ou supposées vraies personnalités des acteurs du sport, autrement que par ces pauvres conférences de presse qui sont devenues la règle où il se passe rien et où les éléments de langage ont tué toute l'émotion et toutes les histoires. Donc ça, au moins, on est un peu plus dans la réalité, mais enfin c'est une réalité augmentée en quelque sorte, parce que il y a des gentils, il y a des méchants, même des très méchants que le public adore détester, comme dans une série de pure fiction. Il y a aussi des rebondissements, des cliffhangers qui donnent envie de regarder l'épisode suivant, et la réalité n'offre pas toujours de tels scénarios, donc il faut parfois les inventer, les réinventer. On verra, et je pense que ce sera intéressant d'avoir ton avis une fois que la série aura été diffusée. Je sais pas si tu as vu déjà les rushs ou si
non,
vu
pas
déjà. Est-ce que tu as un droit de regard sur ce qui va se passer ou non ?
À la fois oui et non.
Ah, bah explique.
Après, alors, d'après ce que j'ai compris, hein, on va visionner les rushs, et s'il y a des situations qui mettent au-delà de l'aspect purement relationnel, quelqu'un en difficulté, on a un droit de regard.
Un droit de regard, mais pas forcément un droit
mais
de changer le
cut,
scénario.
Je ne suis pas sûr. On verra.
Ah, voilà.
Non, mais franchement, j'ai pas, pour le moment, n'ayant pas vu les rushs et n'ayant pas été confronté à la situation, je vais rester assez neutre sur ce sujet-là.
Ouais. Bah, donc, je dis, le problème, c'est que donc ce scénario arrangé, tu montres ça aux téléspectateurs, ils gobent tout ce que tu leur donnes, hein, évidemment. Donc, si on montre un jour que Godu est le méchant, bah Godu sera le méchant dans l'esprit de tout le monde. Il y aura évidemment un esprit critique, mais je suis pas sûr qu'il y ait un véritable esprit critique. Et puis, le deuxième danger, c'est que les sportifs sont conscients, évidemment, que les caméras les filment, et ça change, ça te fait changer ton comportement. Alors, je sais pas, tu vas nous raconter ce qui s'est passé dans cette histoire entre Godu et Desmarres, mais on dit que les caméras de Netflix auraient peut-être exacerbé encore la rivalité entre les deux. Est-ce que c'est la vérité, Marc ? Est-ce que tu penses que ça a pu avoir une influence sur leur façon de se comporter ? Parce qu'ils sont quand même, surtout Godu s'est comporté.
Oui, mais tu oublies juste un détail, c'est que Desmarres n'était pas sur le tour, donc il n'est pas dans la série.
Oui.
Non, mais il n'est pas dans la série, mais c'était lors d'un tournage Netflix pour le prochain numéro, quoi, la prochaine série.
Non, la prochaine série n'est pas commencée.
Il n'y avait pas les caméras de Netflix à un moment donné où il y a eu un accrochage entre Godu et Desmarres ?
Non.
D'accord.
Non, Desmarres n'apparaît absolument pas dans la série, enfin à ma connaissance dans la série, puisqu'il n'a pas fait le tour l'année dernière. Donc, et la saison 2, on sait pas, en fait pour le moment on ne sait pas si elle aura lieu ou pas. Donc il n'y a pas eu d'image de tournée. Donc concernant l'année 2023, il n'y a rien en magasin.
Ouais. Arnaud.
Non, mais en tout cas, bon, voilà, juste pour préciser, et c'est aussi pour ça que j'en ai fait le rappel. Imaginons qu'il y ait une série en 2023 et que tu es toi, David Godu et Arnaud Desmarres sur le Tour de France en tant que manager général de l'équipe Groupama FDJ. Si t'as les équipes de Netflix, tu peux être sûr qu'ils auront.
Ça sera le premier épisode.
Je vais être honnête avec vous pour préparer la saison 2022.
Ils seront déjà tous les deux au Tour de France.
On verra ça le moment venu. Mais là, on va y aller dans l'ordre. Pour la saison 2022. Moi, les premiers rendez-vous que j'ai eu avec Netflix, c'était Godu veut prendre la place de Pinot. Donc la confrontation Pinot-Godu. Et me concernant, c'était mes relations avec mes confrères de d'autres équipes. Ils supposaient ou ils imaginaient ou ils pensaient que j'allais m'écharper avec Lefebvre, avec Brightford ou avec Vincent Lavenue, etc., etc. Et je pense qu'ils ont été assez surpris. Je peux difficilement parler à leur place, mais je pense quand même qu'ils ont été assez surpris de ce qu'était la réalité du terrain, du fonctionnement du Tour de France. D'abord, Godu, Pinot, ben ça fait plouf parce qu'il y avait pas de rivalité ou de match entre eux. Donc il y avait une forme de passation de pouvoir, mais en même temps on savait qu'elle était logique, normale, et elle était bien vécue par tout le monde. Donc il y a pas eu débat. Et me concernant, avec mes confrères, alors s'ils étaient venus l'année précédente, il y aurait certainement eu des images assez croustillantes, parce que on était dans des situations particulières, notamment liées aux chutes du début du Tour de France. Là oui, il aurait pu avoir des punchlines, mais en ce qui me concerne, moi, à titre personnel, sur le dernier Tour de France, j'ai pas eu d'altercation avec qui que ce soit. La vie de mon équipe était plutôt
limpide. Oui, mais toutes les questions sont orientées pour justement avoir un scénario.
Oui,
ce que
non,
t'es en train
oui,
de dire.
Non, franchement, non. Ah, ils ont vécu au quotidien. Alors, le risque entre guillemets avec ce type de tournage, c'est qu'ils sont là dans une telle durée qu'à un moment ou un autre, on finit par oublier leur présence. Moi, j'ai vécu des heures et des heures et des heures avec eux. Et je me souviens que les premiers tournages que j'ai effectués, c'était sur une reconnaissance notamment des pavés de l'étape du Tour. Et une autre séance, les deux premières séances que j'ai fait avec eux, je suis rentré à la maison le soir ratatiné. Je me suis dit, mais...
Parce que tu es obligé de tout contrôler.
Tu t'auto-contrôles. J'ai dissimulé de petites choses à Netflix. Quand on a fait la reconnaissance sur les pavés, Godu avait des petits problèmes physiques. Et tant que Netflix a été là, je n'ai pas parlé avec Godu de ses problèmes physiques. Parce que je n'avais pas envie que ça commence déjà à être dans le reportage. Mais j'étais dans l'appréhension, j'étais dans la découverte de ce qu'est la relation entre Netflix et une équipe de sportifs. Après, les deux premières journées de tournage ont été, pour moi, psychologiquement fatigantes. Je me suis dit, oh là là, comment je vais faire pendant trois semaines sur le Tour? Eh bien, en fait, ça a été l'inverse. Quand je suis arrivé sur le Tour, on est dans le match, on est dans la course, et... 99% du temps, je pense que j'ai fait abstraction de la présence de la caméra. Je vivais avec et j'ai plutôt bien vécu avec la caméra dans la voiture. Et je pense en même temps que Netflix a découvert ce qu'était le Tour de France et va faire découvrir au public ce qu'est le Tour de France dans les coulisses.
C'est en ça que c'est bien.
C'est pour ça que c'est bien. Ouais, c'est pour ça que c'est pas mal. Parce que, par exemple, je pense que tout le monde s'imagine que le manager d'une équipe est au courant de tout ce qui se passe en temps réel et qu'il intervient par téléphone avec son directeur sportif ou avec ses coureurs. Ben c'est totalement l'inverse. Une des personnes les moins informées de la course, c'est le manager de l'équipe. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je suis en voiture, je suis devant la course, les liaisons radio ou téléphone, ça marche pas toujours. Et je me suis retrouvé, par exemple, la fameuse étape du Granon.
J'écoute RMC,
mais quand ça veut bien marcher. Étape du Granon. Je vous raconte l'histoire parce qu'elle est très, très explicite. L'étape du Granon, je faisais des ravitaillements aux coureurs. Dans le Galibier, et je fais mon ravitaillement, ils filment, vous allez sans doute voir les images où on passe les bidons, les encouragements aux coureurs, la petite relation avec le public, etc. Ça, très bien. Sauf qu'après, on remonte dans la voiture, et on est bloqué derrière la voiture balai. Et il y a, je sais pas, un incident sur le parcours, une voiture en panne, ou je ne sais quoi. Et là, on est...
Dans la Pampa.
On est dans la Pampa, pas de radio, Radio Tour ne passe plus, on est trop loin, pas de téléphone, pas de télévision, pas d'RMC.
Ça, c'est rare.
Et là, je suis avec les deux gars de Netflix dans la voiture, et ils me disent, mais comment tu fais là? Je suis comme vous, les gars, j'attends. Donc, ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'en fait, l'influence qui était supposée sur le déroulé de la course de la part du manager de l'équipe, ben, en fait, ça se résumait à rien. C'était zéro.
Et ça, tu espères que cette séquence, elle apparaîtra.
J'espère qu'elle va apparaître parce que c'est la réalité. C'est la réalité pour moi, mais aussi pour certains de mes confrères à certains moments.
On va faire parler, bien sûr, Renaud et Pascal aussi, puisque vous faites partie de la même team, la team merveilleuse, ceux qui pensent que Netflix est merveilleux pour le sport. Juste, pour l'instant, il y a 6 partout entre Tsitsipas et Djokovic dans le deuxième set. Pascal, pourquoi c'est merveilleux?
Mais parce qu'en fait,
il y a 6-5 pour Tsitsipas, pardon.
Déjà, plus pour ma part, plus on parle de sport, plus on montre le sport sous différents angles, mieux c'est pour le sport et pour les sportifs, plus ça suscite des vocations chez les jeunes. Donc en cela, je trouve ça remarquable. Et puis comme vient de le dire Marc, le fait que les caméras soient là constamment, vous les oubliez et vous allez vers votre naturel. On peut montrer, alors il n'y a pas tout à montrer bien entendu, parce qu'il y a des choses qui doivent rester sacralisées concernant la vie d'un vestiaire, la vie d'un groupe.
Mais qui est-ce qui décide de ça alors, Pascal, justement? C'est toi, en tant que manager.
À mon avis, c'est à nous de décider.
Ce que disait Marco, c'est que t'as un droit de regard, mais t'as pas un droit de cut. S'ils ont envie de te monter une polémique qui est toute petite, imagine que l'histoire entre Desmar et Godu se produise pendant le Tour de France. T'imagines le bordel dans lequel t'aurais été?
Mais Christophe, est-ce que tu penses que c'est Netflix qui va, comment dire, amplifier les polémiques
qu'on voit
naître? Tu crois que c'est pas déjà le cas?
Je pense que ce que je te disais tout à l'heure, c'est une réalité augmentée et ça ne fera qu'amplifier.
Il leur faut un méchant.
Depuis que je fais un peu de radio, un peu de télé, je me suis aperçu, parce que franchement, de temps à autre, avant, j'avais pas ce réflexe-là et ces remarques-là. Je pensais que chaque fois que les journalistes parlaient en mal de ce qu'on peut faire, c'était parce qu'ils nous aimaient pas. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai travail le travail de journaliste. Je vois pas pourquoi les journalistes de Netflix comme vous, eh bien vous feriez pas bien votre travail.
C'est des scénaristes plus que des journalistes, les gars.
Oui, mais le plus important. Oui, mais c'est quand même raconter aussi une histoire et raconter une histoire qui touche au plus près de la réalité. Parce que je pense pas qu'ils seraient crédibles s'ils inventaient. Alors qui scénarise, d'accord, mais je pense pas qu'ils inventent des histoires.
Non, mais ils inventent pas, mais ils peuvent un peu caricaturer parfois peut-être des personnages, des polémiques.
Le portrait qu'ils ont fait de Grosjean quand même, la deuxième saison, je crois, de Drive to Survive, il apparaissait comme un tocard.
C'est terrible.
Comme un tocard, franchement. Et je pense que cette image n'a pas été bonne pour lui, alors que... Bon,
et Verstappen, c'est pareil, c'est parce que aussi t'as des interviews qui ont été détournées quelque part, en tout cas aux yeux de, au goût de Verstappen, qu'il a refusé de participer.
Voilà. J'imagine Renault va dire oui, mais de toute façon,
débat est lunaire parce que t'as le journaliste Christophe Cessieux qui est en train de nous dire que c'est les méchants journalistes qui veulent piéger les sportifs authentiques.
Ce ne sont pas des journalistes, c'est des scénaristes, des réalisateurs.
Des scénaristes
de fiction.
Non, mais d'accord, mais ils sont là.
C'est malgré tout assimilé. Ah,
quand même. Est-ce qu'ils ont une obligation de dire la vérité? Pas forcément. Ils racontent une histoire.
Dans ce que raconte Marc Madiot, là, c'est génial d'arriver à montrer au grand public que des fois, le manager d'équipe, il est complètement aux fraises parce qu'il a aucun moyen de communication, qu'il est perché.
Là où, à mon avis, il faisait fausse route, c'est que le manager d'équipe, comme moi, en ce qui me concerne, je n'interviens absolument pas pendant le déroulé d'une étape, sauf un cas exceptionnel, une blessure ou comme ça. Mais sur le déroulé sportif de l'étape, je n'interviens jamais.
Bah, tu vois, ça, c'est bien.
Jamais.
C'est
pourquoi
bien qu'on le sache.
Pour une raison très simple. Cet après-midi, par exemple, il y a le Grand Prix d'ouverture de la Marseillaise. Première manche de la Coupe de France. Je vais être devant mon écran de télé. Je vais sûrement voir des choses qui vont me plaire, le plus possible, j'espère. Mais je vais sûrement voir aussi des positionnements en course qui ne me plaisent pas de mes coureurs. Mais pour autant, je ne vais pas prendre mon téléphone et appeler le directeur sportif qui est sur place. Pourquoi ? Si je le faisais à tout instant... j'enlèverai tout pouvoir à mon directeur sportif présent sur l'épreuve. Donc moi, il y a une règle très simple. Le patron sur la course, c'est le directeur sportif. Qu'il réalise bien ou mal sa course, peu importe. On en rediscute éventuellement derrière, mais ça ne se passera jamais pendant le déroulé de la course. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais d'appel de l'un ou l'autre de mes coureurs qui pourrait faire une connerie pendant la course. Parce que si vous cassez ce lien et... l'importance de la décision que prend le directeur sportif, que la décision soit bonne ou mauvaise, peu importe, c'est le directeur sportif qui prend la décision. Elle ne peut pas être remise en cause sur l'instant présent. Ça, c'est quelque chose pour moi de vital et d'important. Et ça, moi, je l'ai appris de Guimard.
Alors, Renaud, on t'a pas beaucoup entendu sur ce sujet. Toi, tu trouves que c'est merveilleux pour le sport?
Ouais. Tout ce que Marc a dit, ça m'a fait beaucoup écho. Alors, c'est pas avec Netflix, mais c'est vrai qu'à l'époque où j'entraînais la Jidou Kouré, on avait très, très souvent Intérieur Sport, qui venait avec nous aux États-Unis en stage.
Là, ce sont de vrais journalistes.
Et au départ. Oui, mais, enfin, quelque part, c'est un travail de journaliste pour moi.
Non, mais tu t'es jamais senti
d'être auprès de Marc et de montrer les moments, là, qui vient de nous raconter. C'est un travail de journaliste.
Oui,
donc moi j'ai ressenti exactement ce que disait Marc. Les premières journées, waouh, ça va être lourd.
Ça va être usant,
on va être sous contrôle tout le temps. Et puis quelque part il y a un lâcher prise et tu te dis c'est la vérité. Les gens qui sont chez eux et qui sont fans de sport, ils ont envie d'intimité. Je l'ai pas vu.
Ah, tu l'as pas vu.
Non,
parce que c'est quand même le gentil contre le méchant.
Mais oui, François, on n'a pas attendu Netflix. Je veux dire Ben Johnson contre Carl Lewis, le méchant canadien. Je veux dire, c'est le sport, c'est le sport qui est, et c'est pour ça qu'on aime le sport, qui nous vend des histoires. Le blaireau contre Greg Lemon.
Pas mal sur Netflix.
Tu vois. Le sport regorge de moments comme ça. L'affaire VAOM. Enfin, je veux dire.
Mais autant j'étais sur la réserve dans un premier temps, pendant le tour.
Mais j'aimerais bien avoir ton avis une fois que ce sera diffusé.
Oui, mais une fois qu'on était installé dans le Tour de France, c'est parfois moi qui ai dit aux gars, venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Pour les orienter, pour leur montrer l'envers du décor. C'est un peu vrai. Après
ils font ce qu'ils veulent quand même.
Pour ne pas être... Oui, non, mais on
oui,
est
mais
d'accord.
Tu peux moi, pas écrire les articles des journalistes. Enfin, tu vois, c'est pareil.
Quand j'ai su qu'on allait faire Netflix. Il y a la Formule 1. Tout le monde dit la Formule 1. J'ai regardé deux ou trois épisodes de la F1. Je me suis arrêté. J'ai pas vu une saison complète de Formule 1 sur Netflix. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, attends, on va faire Netflix. Si je commence à regarder ce qui se passe dans les autres disciplines sportives, la F1 notamment, je peux éventuellement me laisser influencer par les situations. Donc, je n'ai plus regardé les épisodes de Netflix. J'ai dû en voir deux ou trois en tout sur les 3-4 dernières années. Donc, vous voyez, j'ai quasiment rien vu. Je vois à peu près comment ça fonctionne, mais c'est tout. Et je vais voir ce que ça va donner avec le résultat dans les prochaines semaines. Alors, mais bon.
En tout cas, après, c'est toujours la même recette. Ouais. Pour avoir vu le premier épisode du tennis, là, où c'est sur Kyrgios, où il le montre justement avec ses failles, avec sa petite copine, pour justement montrer que c'est pas forcément le méchant et
après,
le bad boy.
Après, on a tous un moyen de cuter, hein, c'est de pas regarder.
Oui, ça, c'est vrai.